Merci, je sais que c'est pas évident de m'écouter l'après-midi. Mais j'aimerais comparer deux familles en Genèse, si vous voulez bien trouver. Deux familles qui ont vécu à la même époque, qui ont dû faire face à la même culture du monde, qui ont dû gérer le même type de richesse. Deux hommes qui ont dû remplir le même rôle de père et de chef à deux familles qui ont connu le même Dieu et qui ont partagé la même foi. C'est un peu si on comparait deux familles dans la même église. Mais le sort de ces deux familles est tragiquement opposé. Et ça montre que l'effet de la famille est important. Elle n'est pas toujours décisive, hein, parce qu'un enfant d'une mauvaise famille peut suivre le Seigneur, amen. Et malheureusement, un enfant dans une bonne famille peut suivre le monde. Dieu est le Père parfait, il a des enfants très imparfaits. Néanmoins, il est vrai que l'importance de la famille sur la génération suivante ne peut pas être exagérée. Et l'avantage de suivre deux familles comme celle-ci, tout au long de leur vie, nous permet de voir non seulement comment ça commence, mais comment ça termine à la fin. Parce que vous tous, si vous voulez vivre seul, si vous vivez en couple, si vous vivez en famille, vous avez de la part de Dieu un certain quota de temps. Nous avons tous, je crois, 24 heures par jour, n'est-ce pas? Et nous avons tous un patrimoine que Dieu nous a donné, des talents qui nous a donné certaines richesses, une certaine adresse, peut-être des amis, peut-être un emploi. Nous avons des choses que Dieu nous donne qui sont différentes des autres, mais c'est ce qu'on fait avec ces talents, c'est ce qu'on fait avec ce temps qui change souvent la donne pour nous et pour ceux qui sont autour de nous. Et la question, c'est, OK, il semble parfois qu'il y a deux familles qui vont peut-être dans une petite légère différence de direction, mais qu'est-ce qui arrive dans 20 ans? Là, on voit que l'écart, en fait, grandit et la différence se démontre. Et je parle ici de deux hommes, Abraham et Lot. Et la Bible dit des deux qu'ils étaient justes. Par exemple, Romains 4 dit, que dirons-nous donc d'Abraham? Abraham, il n'a pas été justifié par les œuvres. Que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il est compté juste devant Dieu. Mais ce qui est surprenant, il n'aurait pas deviné en lisant l'Ancien Testament. Il faut le Nouveau Testament, c'est 2 Pierre 2, 7, dit que Dieu a délivré Lot le juste. Donc Lot aussi est à compter parmi les justes. Et donc il partageait à la même foi. Mais notez Genèse 13, verset 5. Et on va voir un contraste dans leur relation avec le monde, et puis un contraste dans leur relation avec les membres de leur famille. Okay? D'abord, un contraste dans leur relation avec le monde. Genèse 13, verset 5, « Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs, des tentes. » Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Et il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et les Cananiens, les Phérisiens habitaient alors dans le pays. Donc ils sont face à la même culture autour d'eux. Et Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et les bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Ok. Voyons la bonté ici d'Abraham. Il est son oncle. Mais là, il donne le choix au plus jeune. Et Lot, verset 10, leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Si on se demande pourquoi, ben c'est à cause du verset 10. Hein. C'est très clair que c'est arrosé, c'est très beau. Et donc, il choisit sur ces données-là. Et il s'avança vers l'Orient. Et c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Ça, c'est l'évaluation de Dieu. Et l'Éternel, verset 14, dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Orient, vers l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Lève-toi, parcours le pays, dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Alors, la différence entre Lot et Abraham dans leur attitude envers le monde, on le voit dans deux domaines. D'abord par rapport à l'argent, et puis par rapport à la sécurité. Par rapport à l'argent, on voit ce que Lot a vu, verset 10. Hein. Il vit, Lot leva les yeux et vit. Vous voyez, c'est clair ce que Lot voit. Plus tard, on entend ce que Dieu voit. Il voit qu'ils sont méchants. Mais là, ce que Lot voit, il voit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Et sur ce qu'il voit, il choisit. Alors, vous savez que deux personnes peuvent voir la même chose, ou regarder en tout cas dans la même direction, et voir deux choses très différentes. Hein, peut voir l'enfant, est-ce que je peux aller là-bas? Et la mère, elle a une vision complètement différente de ce qui va se faire là-bas que l'enfant. Et l'autre regarde, il voit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Dieu regarde et il voit verset 13, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Donc l'autre voit une plaine entièrement arrosée. Dieu voit de grands pécheurs contre l'Éternel. Alors, ce n'est pas que Lot est inconscient, qu'il ignore les péchés. Ne cherchez pas, mais 2 Pierre, chapitre 2, verset 7, nous dit que Lot était profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminel. Donc il voit les problèmes, il voit les soucis. Et parfois il y a des parents qui voient aussi les problèmes, ils voient les soucis du monde, qui est en train de gagner même leurs enfants, et ça, ceci parfois depuis un très jeune âge. Ils sont parfois profondément attristés par ce qui se passe. Leurs âmes sont parfois tourmentées, comme on lit de Lot, mais comme Lot, ils persistent quand même dans des choix égocentriques, parce qu'il faut le faire pour l'argent, parce qu'il faut le faire pour ceci ou pour cela. Et je sais que c'est pas bon, je sais que c'est pas idéal, mais j'ai pas de choix. Et ils pleurent un peu la perte de leurs enfants, les bras croisés, parce qu'ils refusent de faire ce qui serait nécessaire pour gagner les âmes de leurs enfants. Prenez un parent d'un adolescent qui dit, bon, vous savez, elle est toujours sur Internet, dans sa chambre, je ne sais même pas ce qu'elle regarde, elle sort avec ses amis, je ne sais pas ce qu'elles font ensemble, mais vous savez, elle a cet âge-là, je ne peux rien faire. Et donc, on ne fait rien. Parfois, on doit se demander, est-ce que c'est qu'on ne peut rien faire ou qu'on a peur de faire quelque chose? Je ne pensais pas que les parents pouvaient avoir peur de leurs enfants jusqu'à ce que je sois moi-même parent. Mais ça arrive. Donc, est-ce que nous manquons de capacité ou est-ce que nous manquons de courage? Est-ce que nous manquons le savoir-faire ou est-ce que nous manquons une sainte foi? Est-ce qu'on préfère prendre une chance, dire on espère que ça va bien se passer, on ne sait pas où ça va arriver? Ou est-ce que nous sommes prêts à faire des choix qui sont peut-être difficiles, même économiquement pour nous, mais ce serait pour le bien spirituel de notre famille? Est-ce que nous sommes prêts à quitter notre logement, à vivre quelque part même différent, à perdre de l'argent parce qu'on ne choisit pas un certain poste, parce que le bien spirituel de nos enfants vaut le coup? Lot a choisi de fixer donc ses yeux sur la plaine. Et donc, il s'est déménagé vers là. Là, la question de l'argent. L'autre question, c'est la sécurité. Et les deux sont très liés. Soit en hébreu, il dit, ne vous cédez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, l'Éternel est mon aide, je ne craindrai rien. Parce que l'amour de l'argent et la crainte du monde sont très liés. Parfois on se dit, c'est pas que je veux être très très riche, mais j'ai quand même peur d'être trop pauvre. Vous voyez, c'est lié. On a peur de ne pas avoir assez quand même. Et donc on fait parfois des choix, pas parce qu'on veut être le plus riche dans la ville, mais parce qu'on a peur d'être trop pauvre face aux besoins que nous avons. Et la peur nous gagne et nous contrôle. Et on ne sait pas pourquoi Lot a choisi de vivre à l'intérieur de Sodome. On voit au début, verset 13, qu'il habita dans les villes de la plaine. Verset 12, il s'installa parmi les villes de la plaine. Mais si vous regardez quelques versets plus loin, vous verrez le point de repère qui marque l'habitation d'Abraham. Verset 18, Genèse 13, 18, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes, okay, près d'Hébron. Et c'est exactement la même préposition, verset 12, Lot habita parmi les villes de la plaine, et verset 18, Abraham va habiter parmi les chênes de Mamré. Donc Lot cherche à vivre entouré de ses villes, Abraham entouré de ses arbres. Mais la différence va encore plus loin. Entre une tente maintenant, qu'une simple tente sous la protection de Dieu, et une ville fortifiée, mais qui n'a pas la protection de Dieu. Notez chapitre 13, verset 12, pour voir un autre contraste beaucoup plus important. Abraham habita dans le pays de Canaan, Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Et qu'est-ce qui est maintenant dit par rapport à ce choix? Ben, les gens de Sodome étaient méchants, de grands pécheurs contre l'Éternel. Et on contraste ça avec le verset 18. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Voilà. Mais le contraste maintenant, c'est ce qu'il dit juste après. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Ça n'est jamais dit de Lot. Ça, c'est la grande différence. Lot va vivre parmi des méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Abraham va aller vivre seul, mais il va se consacrer à construire un autel à l'Éternel. Il veut que ça soit centre dans sa vie, la vie de sa famille. Alors, ce n'est pas le fait d'habiter dans une ville, heureusement pour nous. Hein. En tant que chrétien, on n'a même pas peur de la ville. D'autres fuient la ville et nous, on n'a pas peur de fuir la ville. On pourrait se demander quand même pourquoi Lot a-t-il choisi de vivre parmi les villes. Je crois qu'on peut voir sa pensée au chapitre 19. Si vous pouvez chercher 19, Genèse 19, verset 17. C'est 20 ans plus tard. Mais après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, c'est les anges qui parlent à Lot, il dit, « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. » Et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Et Lot leur dit, « Oh, non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu as montré ta grandeur et ta miséricorde à mon égard en conservant ma vie. » Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne. Et je, si je vais à la montagne, qu'est-ce qui va m'arriver à la fin du verset 19? Voilà, je vais périr. Voici cette ville, voyez? Qu'est-ce qu'il veut? Pas la montagne, il veut une ville. Elle est assez proche pour que je m'y réfugie. Elle est petite, oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Vous voyez son attachement quand même à la ville pour se sauver? Et l'ange dit, sauve-toi vers la montagne. Et Lot dit, non, mon Seigneur, donne-moi une ville pour que je m'y réfugie. C'est pour Lot, la ville, c'est un point de refuge. C'est une protection. Et donc, quand on arrive au chapitre 4 de Genèse, Lot et son famille sont installés à l'intérieur de leur ville de refuge. Alors qu'Abraham est dans une tente parmi les arbres. Et Lot pensait qu'une ville, même remplie de pécheurs, contre l'Éternel, sans autel, serait mieux qu'une tente sous les arbres avec autel. Mais voici l'ironie, vous le connaissez déjà. Quelle est l'ironie? Regardez chapitre 4, verset 10. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite parce qu'il y eut une bataille. Le reste s'enfuirent. Verset 11. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions. Et ils s'en allèrent et ils enlevèrent aussi avec ses biens qui Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Alors, qui est pris? Qui s'est fait avoir? Lot qui habite sous une tente? Abraham, pardon, qui habite sous une tente, ou Lot qui habite dans la ville fortifiée? Vous savez, la Bible nous dit, ne mettez pas votre espoir dans des princes. Combien de choix est-ce qu'on fait pour être en sécurité? Et on découvre des années plus tard que ce n'était pas seulement inutile, c'était désastreux. Mais l'ironie n'est pas encore terminée, parce que regardez verset 13. Un fuyard vient l'annoncer à Abraham, l'hébreu, et notez le détail concernant son emplacement. Il veut qu'on le souligne, hein, il veut qu'on le note. Celui-ci est habité parmi les arbres, hein, les chênes de Mamré. Et verset 14, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, lui, il part tout de suite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va ramener Lot avec tous ses biens. Donc, voyez l'ironie. Celui qui habite dans la ville fortifiée est secouru par celui qui habite dans une simple tente parmi les arbres. Et nous apprenons que la sécurité ne vient pas d'une armée, ne vient pas d'une muraille, ne vient pas de la police municipale, ne vient pas d'habiter dans un département plus que dans un autre. Ça vient de Dieu. Et il vaut mieux vivre sous une tente, s'il faut, sous la protection divine, que dans une grande maison, sans la protection de Dieu. Et donc Sodome est saccagée, elle est conquise. Mais Lot est sauvé grâce à son frère. Et qu'est-ce que Lot fait? Sauvé de Sodome. Qu'est-ce que Lot fait? Vous savez, où est-ce qu'il va habiter par la suite? Il va rentrer à... Je crois que vous dormez tous là. Hein? Je devrais m'arrêter. Hein? Où est-ce qu'il va habiter après ça? Il retourne à Sodome, qui nous dit que Lot a choisi de vivre là-bas, pas une fois, mais deux fois. L'Éternel le fait sortir, miraculeusement il le sauve, et Lot, comme un insensé, il retourne. Parfois on voit des choses comme ça dans la vie aussi. Dieu fait grâce à un couple, il fait grâce à un enfant. On a fait des bêtises et Dieu nous sauve. On devrait prendre garde à nos choix par la suite. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ah, regardez, Ça a bien marché. On fait presque comme preuve, si c'était preuve, qu'on peut vivre là et Dieu va nous protéger s'il faut. Et donc on retourne dans les mêmes choix qu'avant. Lot a choisi de vivre à Sodome, pas une fois, mais deux fois. Et c'est peut-être maintenant la relation de Lot avec Abraham, parce que vous savez, tout le monde savait que c'est Abraham qui les a sauvés, toute la ville. C'est peut-être cela qui a donné maintenant à Lot sa place à la ville. Vous savez, plus tard, il a une place à la porte de la ville, c'est une place d'importance. Parce que peut-être il était le neveu du sauveur de la ville. Et si ça c'est le cas, c'est intéressant, hein, parce que ce qui a été servi, voulu par Dieu pour être un avertissement pour Lot, devient, Lot l'utilise pour ancrer sa famille encore plus dans la vie de Sodome. Maintenant, il a sa place à la porte de la ville. Il fait partie intégrante maintenant de la vie de la ville. Il n'est plus un étranger, c'est comme un citoyen de la ville. Et là aussi, on voit la folie. Vous les jeunes aussi, la folie. Dieu nous bénit. Il nous donne du succès même parfois. Et on prend le succès que Dieu nous donne dans sa grâce et on l'utilise pour nous, pour nos avantages, pour accomplir nos désirs. Et pas pour Dieu. Raël a dit, les hommes ne manquent jamais de raison pour confirmer leur volonté. Mais une chose est très claire, Lot habitait au milieu de Sodome sans une bonne cause. Et hein, on peut dire deux fois. Et qu'est-ce qui se passe après à la ville, après son retour? Vers chapitre 19, vous savez que la ville va être détruite. Mais juste avant, verset 16, versets 15 et 16, Genèse 19, 15 et 16, les anges y viennent, ils disent « Prends ta femme, prends tes filles qui se trouvent ici pour que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme ils tardaient, ils tardent, hein, c'est le commandement des anges, ils tardent, ils hésitent. Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous n'allez pas obéir à la parole des anges. On dit « Oh, si un ange me disait quelque chose, je ferais. » Pas forcément, hein. Il tarde et les hommes donc le saisirent par la main, lui, sa femme, ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Il hésite à partir, même quand il sait que la ville va être détruite. Il veut chercher sa richesse, sa sécurité dans cette ville et maintenant il ne peut même pas s'en débarrasser. Maintenant qu'il sait que ça ne marche pas, son cœur y est tellement parce que là où est ta richesse, là aussi sera ton cœur. Et où est Lot quand on le voit pour la dernière fois? Notez Genèse 19, verset 30. Lot va quitter Tsoar, c'est cette petite ville hein, qui n'a pas été détruite, à sa demande, parce qu'il pense encore trouver protection là-bas. Hein, il pensait trouver protection à Sodome, ça n'a pas marché la première fois. Il pense une deuxième fois, ça va marcher. Ça ne marche pas la deuxième fois. Il dit, OK, Tsoar, je vais rester là. Là, je vais voir. Non, ça ne marche pas non plus. Et là, il va vers la montagne. Il se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habitait dans une caverne, lui et ses deux filles. Alors, vous voyez, c'est avantageux de pouvoir suivre une famille toute sur 20 ans, 20-25 ans ici. Chapitre 13, verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et là, sa retraite, je ne sais pas quel âge, hein, mais sa retraite, il termine sa vie dans une caverne sur la montagne. Celui qui cherche à gagner sa vie, la perdra. Le proverbe dit, fois après fois après fois. Mais le problème, c'est que le jeune doit croire, parce qu'il n'a pas encore vécu. Et quand on est jeune, on se dit, ah, je suis l'exception. Et c'est pour ça, Dieu, non, 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 on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on moissonne. Vous ne serez pas l'exception. Lot n'était pas l'exception. Et nous non plus. Donc Lot, entre le choix de Lot en Genèse 13 et la caverne de Genèse 19, il y a ces 20 ans, et je vous demande de vous projeter maintenant 20 ans d'ici. Surtout vous les jeunes. Où serez-vous grâce à vos choix? Vous dites, ah, la cour n'est pas très grande. Hein, oui, mais dans 20 ans, ça va vous amener où? Lot n'imaginait jamais qu'il allait terminer dans une caverne sur la montagne. Il pensait qu'il était logique, il avait raison. Il était convaincu de ses choix. Mais ça s'est mal terminé. Et puis, notez deuxièmement le contraste dans leur relation avec leur famille. Ça aussi, je pense que c'est important. Dans le contexte de Sodome, Genèse 18, il y a Abraham. Et que dit Dieu par rapport à Abraham? Genèse 18, verset 19, on est en train de prier pour Sodome, hein, donc on est dans le même contexte. Et Dieu dit verset 19, Genèse 18, 19, « Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. » Dieu a choisi Abraham pour qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Ça, c'est son rôle. Il ordonne à ses enfants de garder la voie de l'Éternel. Et quel impact a eu Lot sur sa famille? Quel impact? Pensez à ces gens, les deux maris de ces deux filles. Il va leur dire, hein, « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais Genèse 19, verset 14, à la fin, dit, « Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. » Quel impact a eu Lot sur sa femme? Lot, Genèse 19, 26, « La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. » Jésus lui-même a dit, Luc 17, 32, « Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la retrouvera. » Jésus fait cette application directement à l'histoire de Lot et sa femme. « Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Souvenez-vous de la femme de Lot. » C'est ce qui est arrivé pour elle. Cela nous indique que la femme de Lot cherchait à sauver sa vie, et parce qu'elle cherchait à sauver sa vie, elle a perdu sa vie. Et quelle était l'influence de Lot sur ses enfants? Et c'est peut-être ici la partie la plus triste, même dégoûtante, de cette histoire. En Genèse 24, les premiers versets disent que Abraham était vieux. Et notez cela, il était vieux, car nous allons lire exactement la même chose par rapport à Lot. Avancé en âge, l'Éternel avait béni Abraham et toutes choses. Et Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie, ta main sous ma cuisse, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Cananiens au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Nous voyons Abraham devenu vieux, il pense à son enfant, il pense à la génération suivante, il prend des démarches pour que son fils puisse avoir une épouse, parce qu'il sait que Dieu ne veut pas qu'il se marie avec les Cananiennes qui sont là, donc il ne va pas rester les bras croisés, il va aider son fils. Mais Lot, il reste les bras croisés. Lot, il pleure tout ce qu'il a perdu dans la vie. Lot devient un de ces hommes qui regrettent, qui deviennent très amers. Hein, quand il en arrive à un certain âge, on voit qu'on a fait des choix. Et au lieu de se repentir, hein, et recommencer avec le Seigneur, on devient de plus en plus grincheux et amer et fâché contre tout le monde. Je crois que c'est l'image de Lot. Et chapitre 19, verset 31, l'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est quoi ? » Il est vieux, comme Abraham était vieux. « Et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. » Lot est vieux, il n'a rien fait pour la protection de ses filles. Après sa mort, il ne pense pas à la suite. La Bible dit qu'un homme sage, il laisse un héritage pour ses enfants. Lui, il ne va rien rester sauf une caverne pour ses deux filles. Et ses filles sont donc forcées à résoudre le dilemme elles-mêmes. et ce qu'elles font d'une façon incestueuse avec leur père est horrible. Lot n'a même pas sauvé un seul serviteur. Sa femme avait Sodome dans le cœur. Ses filles imitaient les pratiques incestueuses de Sodome. Lot a cédé sa famille à sa recherche de l'argent et de la sécurité. Et Abraham, il est content de vivre sous une tente, de vivre différemment que la culture autour de lui, et de regarder à l'éternel seul. Mais si c'était vous, et vous êtes vieux, vous aimeriez avoir la famille d'Abraham ou la famille de Lot. Que Dieu nous aide à faire de bons choix dans nos familles. Juste trois choses en application. Ce n'est pas votre niveau de richesse qui importe. Abraham, en fait, était plus riche que Lot. Hein. Mais il fait preuve de plus de sagesse. Deuxième application, vos choix auront un impact sur beaucoup de personnes pendant beaucoup d'années. Surtout si vous êtes parents, les choix que vous faites auront un impact sur vos enfants. Avons-nous par amour pour l'argent une soif de sécurité? Est-ce que cela nous a poussé à faire la paix avec Sodome? Et la seule réponse est que nous devons priser Christ plus que toute autre chose. La meilleure chose qu'on peut donner aux autres, c'est notre propre amour pour Jésus-Christ. Que Dieu puisse croître cela en nous. Merci.